aperçoit chaque bruit, les battements absurdes des essuie-glaces dans le vide, les klaxons au loin comme pour célébrer un triste mariage, le crissement soyeux des pneus partis en vrille sur la surface mouillée d'une route qui descend en hélice, le cliquetis des objets qui planent tels des figurines suspendues au-dessus du lit d'un enfant, les cris sauvages de la pluie défiant les hurlements perçants d'une dame, tout cela soudainement couvert par la voix sage et grave de l'homme érudit qui raconte au micro de la radio, un archéologue était parti sur les traces d'un grand moine bouddhiste chinois, le premier à avoir écrit sur ces bouddhas. Attic Raimi est ce soir notre invité à l'occasion de son nouveau livre qui sort ces jours-ci en cette belle rentrée littéraire et qui s'intitule « Les porteurs d'eau ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et nous allons suivre le narrateur d'Attic qui, au volant de sa voiture, écoute ceci. Poétique et politique, votre prose l'est depuis très longtemps, Attic Raimi, un peu comme cette chanson de Bob Dylan que votre narrateur principal écoute en boucle dans cette voiture qui va le conduire à Amsterdam, endroit où il est censé retrouver une jeune et belle et mystérieuse jeune femme. Mais commençons par le commencement. Croyez-vous à l'invisible ?
Oui, mais pas à l'invisible tel qu'on on entend par les religions, non. L'invisible est là, sauf que moi, je vois pas, c'est tout. C'est tout ce qui n'est pas à la portée de ma vue. Ça devient invisible. Et puis, la pensée, oui, c'est quelque chose, tant que ce n'est pas exprimé, c'est quelque chose d'invisible pour moi. Et notre imaginaire, nos rêves, sont tous à l'intérieur de nous. Et l'art, pour moi, c'est justement rendre visible tout ce qui se passe en nous, tous nos sentiments, tout ça, c'est voilà, tout ce qui est invisible à l'intérieur de nous.
Tout petit, vous parliez tout le temps, y compris pour dire des mensonges. Pourquoi ?
Je crois que sans mensonge, l'être humain ne pourrait plus exister sur cette terre. Ça, c'est... Je crois que c'est juste seulement l'être humain est capable de mentir. Et le langage est né justement pour, d'une certaine manière, pour mentir. Avec le langage, bon, enfin, la psychanalyse l'a bien montré, avec le langage qu'on cache des choses. Mais aussi, c'est grâce à ce même langage qu'on révèle des choses. Mais au début, c'est vraiment on cache des choses.
Vous êtes issu d'une famille d'intellectuels. On peut dire que vous avez été élevé dans une religion des livres. Est-ce que les livres vous ont encouragé à partir de votre propre pays ?
Bien sûr, parce que tout petit, mon père avait construit une bibliothèque à la maison et on avait presque tous les livres traduits en persan, évidemment par les Iraniens, dans cette bibliothèque. Aussi bien les grands classiques persanophones que les grands classiques européens. Voilà, on avait tous les livres de Victor Hugo, de Flaubert, tous ces gens-là étaient traduits. Donc Dickens, Hemingway, etc. Donc on a grandi, oui, dans une telle ambiance, bien sûr.
À quel âge êtes-vous parti de Kaboul et dans quelles conditions, Atik Raimi ?
La première fois, j'ai quitté l'Afghanistan quand j'avais 15 ans et demi pour partir en Inde, rejoindre mon père. Lui, qui était bien avant, en 1973, a été en prison en Afghanistan, mais 3 ans après, quand il est sorti, il voulait plus rester en Afghanistan. Pour lui, comme il disait toujours, avec le coup d'État de 1973, où le cousin du roi a justement a renversé le roi, et que mon père, comme il était monarchiste, donc il était allé en prison, juste parce qu'il disait que avec ce coup d'État, le A d'Afghanistan est tombé pour devenir Afghanistan. Et dans ma langue maternelle, Afghanistan, ça veut dire terre de cris et de plaintes. Voilà. Donc, il est parti en Inde. Ensuite, quelques temps après, quand il y a eu le coup d'État des communistes en 1978, je suis parti le rejoindre. Et je suis resté 6 mois avec lui. Mais mon père a été obligé de retourner en Afghanistan, sinon tous ses biens seraient confisqués par l'État communiste. Et moi, je suis resté tout seul et j'ai voyagé en Inde. Et l'argent que mon père m'avait laissé pour mes études, je l'ai dépensé pour voyager.
Cependant, dans votre avant-dernier livre qui s'intitule « La balade du Kalam », vous écrivez ceci. « Et moi, je devais prouver mon existence contre tout, en marge de tout, ni monarchiste, ni communiste, ni féministe, ni mystique, sans ordre aucun. Je n'étais rien d'autre qu'un anarchiste sans le savoir. » C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Jeune, j'étais déjà ailleurs, sans patrie, sans terre, en exil, dans l'écriture.
Oui, parce que j'étais dans une famille Mon père était monarchiste, mon frère communiste, ma sœur féministe, ma mère mystique. Donc je n'avais plus d'autre choix que d'être anarchiste, donc pour exister dans ce cercle. Et c'est vrai que très jeune aussi, je m'attachais beaucoup à l'écriture. Comme mon père lisait énormément, il nous faisait lire des livres. Oui. Et puis j'avais 10 ans que mon premier poème a été publié. Et ensuite, à partir de 14 ans, quelque chose comme ça, j'ai publié des petites nouvelles dans les magazines. Et je dessinais aussi à l'époque. Et j'ai fait même la couverture d'un magazine avec mes dessins. Oui. J'étais toujours ailleurs, en effet. C'est l'art qui m'a permis d'être ailleurs. Dès qu'on touche à l'écriture, on part ailleurs. C'est la page blanche, justement, dont je parle toujours, c'est notre terre d'exil, notre terre d'asile aussi.
Alors, cette page blanche, vous l'habitez de différentes façons à Atik Raïmi. Vous l'habitez par l'écriture, en atteste encore ce livre qui vient de sortir, intitulé « Les porteurs d'eau ». Vous allez mettre en scène deux personnes qui vivent aujourd'hui, qui sont toutes deux d'origine afghane, qui sont toutes deux situées dans des territoires géographiques, psychiques, économiques différents, et qui vont avoir un rapport avec la vie, avec l'avenir et avec la religion tout à fait différent, voire même opposé. Mais cette page blanche dont vous parlez et que vous avez réussi à maîtriser très très vite, vous la maîtrisez par la grâce de votre écriture, par votre érudition, par votre connaissance des contes, du Coran, que vous connaissez parfaitement bien, mais aussi de la calligraphie.
Mm-hmm. Oui.
Art sacré par excellence.
Absolument. Tout jeune, même dans les premières années à l'école, on devait apprendre la calligraphie. Et à cette époque, je détestais la calligraphie, parce qu'il fallait copier les versets du Coran ou les poèmes très mystiques, etc. À cette époque, je comprenais rien de tout ça. Et aussi, quand même, tailler le roseau pour calligraphier, c'était une sorte de, oui, de châtiment pour moi. Et je me sentais pas très heureux. Mais par contre, pour dessiner autre chose, oui, j'étais très content. Je m'abandonnais à tout, à l'écriture. Et puis, petit à petit, je trouvais même à cette époque une sorte de style dans mes peintures, dans ce que je faisais. Mais la calligraphie est revenue plus tard, ici, en France, quand j'ai commencé à publier des livres. Et c'est vrai, à chaque fois, pour faire des dédicaces aux lecteurs dans les séances de signature, à chaque fois, donc, je devais passer un certain temps avec les lecteurs pour leur demander qu'est-ce que vous voulez, etc. Et puis, par les craintes de ne pas commettre une faute d'orthographe ou quoi que ce soit. Donc, alors, j'étais fatigué de tout ça. Alors, j'ai dit, allez, maintenant, fais de la calligraphie. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde est content et aussi ça me donne un plaisir extraordinaire d'offrir à mes lecteurs quelque chose. Et puis, je leur demande à chaque fois de me donner un mot qu'ils portent en eux, un seul mot. Et je les calligraphie. Et c'est vrai que, il y a un échange extraordinaire avec les lecteurs. Et aussi, c'est une sorte pour embellir et vénérer la lettre, le verbe, les mots.
La lettre, le verbe, les mots, ce sont des terrains de jeu pour vous, Atik Raïmi, et ce, depuis longtemps. Il faut dire que vous êtes un calligraphe d'un type particulier, parce que vous avez inventé un art de la calligraphie qui s'appelle la callimorphie, et qu'au lieu d'utiliser de l'encre, comme tout calligraphe expérimenté, eh bien, quelquefois, vous allez puiser dans le vin pour faire vos callimorphies.
Absolument. De ce que vous l'avez sorti, ça. En effet, de temps en temps, parce que j'aime beaucoup le vin. Et pour travailler, pour écrire, évidemment, j'ai besoin de non seulement de mon ordinateur, de mon cahier, etc., mais aussi des papiers et de mes roseaux pour dessiner quand les mots, comme disait Duras, ne m'attaquent pas. Donc, j'attaque les mots avec le roseau, avec l'encre, et de temps en temps, et ça m'est arrivé une fois, comme ça, j'avais la tête complètement ailleurs. À côté, il y avait justement l'encrier et un verre de vin. Et je me suis rendu compte, et le gros os qui s'est trompé dans le verre de vin, je ne me suis pas rendu compte. Et je trace un mot et je vois que c'est presque violet. Je me dis, d'où est-ce que ça sort ça? Et bien évidemment, c'était le vin. Et j'ai vu que c'était très très beau. Et de temps en temps, oui, je fais des calligraphies avec le vin.
Je vous propose d'écouter la voix de Claude Lévi-Strauss, qui a été très important quand vous êtes arrivé en France, qui va parler de l'invention de l'écriture. C'est une archivina du 23 octobre 1959. C'est au micro de Georges Charbonnier.
Il est certain qu'un peuple ne peut profiter des acquisitions antérieures que dans la mesure où elles se trouvent fixées par l'écriture. Je sais bien que les peuples que nous appelons primitifs ont souvent des capacités de mémoire tout à fait stupéfiantes, et on nous parle de ces populations polynésiennes qui sont capables de réciter sans hésitation des généalogies qui portent sur 30, 40 ou 50 générations, mais ça a tout de même manifestement des limites. Il fallait que l'écriture fût inventée pour que le savoir, les tentatives, les expériences heureuses ou malheureuses de chaque génération fussent accumulées, et qu'à partir de ce capital, il devienne possible aux générations suivantes, non pas seulement de répéter les mêmes tentatives, mais d'utiliser celles qui avaient été faites avant.
Claude Lévi-Strauss a été très important dans votre formation intellectuelle quand vous êtes arrivé en France. Et quand on lit chacun de vos livres, Atik Raimi, on a l'impression que vous réinventez votre propre langue. Vous avez été élevé dans le persan, vous êtes arrivé en France sans connaître le français, petit à petit, si vous l'aviez lu dans la bibliothèque de votre père.
C'était les livres étaient traduits en persan, mais à l'âge de 11 ans, je suis entré au lycée franco-afghan. Sauf que quand je suis rentré, les deux premières années, ça allait très bien. Ensuite, il y a eu le coup d'état des communistes, et là, les Français avaient quitté le lycée, et nous, on est resté avec le prof afghan, et très vite, je suis parti en Inde. Donc, j'ai pas pu vraiment, comme les promotions avant nous, de profiter de la présence des Français, puis d'apprendre le français correctement là-bas en Afghanistan. Quand je suis arrivé en France, j'avais un français très très élémentaire, et puis déjà entre un baguette et une baguette, j'avais du mal. Donc j'achetais toujours deux baguettes. Pour ne pas.
Comment avez-vous été accueilli?
Oh, à l'époque, vous savez, c'était la guerre froide. Donc, les Afghans qui se battaient contre l'Union soviétique étaient les héros du monde entier. Donc, on était reçus comme des princes un peu partout. Je me rappelle quand je suis arrivé au Pakistan. Alors, les gens de l'ambassade des États-Unis ou d'Allemagne allaient chercher les Afghans dans les camps, les réfugiés. Ils disaient, allez, venez, si vous voulez aller en Allemagne, allez-y, etc. Donc, ils nous donnaient même des billets.
On vous sait très engagé vis-à-vis des migrants, et on sait que la communauté afghane est très importante en ce moment même en France. Mmh. Il y a eu un reportage qui a été publié il y a quelques jours dans le journal Le Monde pour dire que les Afghans se ressentaient comme des gens pris dans une inhospitalité assez terrible. Je ne sais pas si vous avez lu ce reportage. Vous avez signé au moment de Calais des appels pour pouvoir mieux accueillir les Afghans. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à cette communauté à laquelle vous appartenez et dont vous êtes totalement solidaire?
Oui, mais non seulement à l'égard des Afghans, mais aussi à l'égard de tous les réfugiés, les Syriens, quand on voit partout. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'avant. Et c'est vrai que depuis, l'ordre géopolitique du monde a changé. Il y a maintenant problèmes culturels, économiques, politiques. Et tout ça, on ne sait plus qui vient pourquoi. Un peu partout, même les Afghans, quand je les vois, quand je les interroge, certains, je sais qu'ils ne viennent pas parce qu'ils étaient menacés, mais justement parce qu'ils n'avaient pas leur place dans la société afghane. Vous voyez ? Donc voilà, c'est devenu très très compliqué malheureusement aujourd'hui par rapport à avant. Mais l'importance aujourd'hui, notamment en Afghanistan, c'est que comme les talibans sont toujours présents et le Pakistan qui les aide, l'Arabie Saoudite aussi, donc les jeunes Afghans, quand ils retournent au pays, évidemment, ils seront accueillis aux bras ouverts par tous ces intégristes. Donc, c'est une sorte de piège pour eux de retourner au pays. C'est ça qui m'inquiète. Et puis, comme il n'y a pas une activité culturelle, économique, assez importante en Afghanistan, les jeunes ne peuvent pas travailler facilement, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Donc, de ça, ils profitent les intégristes, les islamistes, et les talibans, ils leur donnent de l'argent. Et comme ça, ils les récupèrent. C'est ça qui m'inquiète.
De religion, il est beaucoup question à l'intérieur de vos livres, et notamment dans ce dernier, qui s'intitule « Les porteurs d'eau », de cette religion qui nous permet de continuer à vivre dans le monde et d'avoir un rapport sacré dans le monde et par rapport à notre existence. Vous n'êtes pas, je crois, un écrivain engagé qui prenait parti, même si vous vous battez toujours pour la liberté d'expression, y compris dans votre propre pays. Mais il y a, à l'intérieur de votre dernier livre, qui a trait à une situation bien connue de nous tous dans le monde entier, quand il y a eu atteinte de ces trois Bouddhas dans votre propre pays, le monde a tremblé parce qu'il s'agissait de culture et de civilisation et de Absolument. Patrimoine de l'humanité, mais j'ai l'impression qu'aussi, à l'intérieur de votre écriture, en tout cas celle de vos romans, Atik Raimi, eh bien, il y a une sorte de spiritualité et de force dans l'écriture, et que pour vous, les lettres de l'alphabet sont comme habitées par une sorte de transcendance.
Oui, je suis pas du tout religieux, ni croyant. Mais la religion m'intéresse énormément. Je crois que l'homme ne peut pas vivre sans croyance, sans religion, malheureusement, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'il faut, comme les mystiques perses, comme les mystiques juifs, comme les mystiques chrétiens ou comme les Indiens, prendre la religion comme une philosophie ou justement comme un système politique, social, etc. Moi, je dis, voilà, en effet, l'homme a commencé à réfléchir sur le monde. L'homme a commencé à penser le monde avec, justement, la religion. Donc, et quoi que l'on fasse, notre pensée est structurée à partir de là. On a des archétypes religieux en nous. Donc, maintenant, comment peut-on les transformer à notre avantage, et le descendre du ciel vers cette terre. C'est ça qui est pour moi le plus important. Et puis, justement, dans la religion musulmane, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Cette religion est fondée sur le christianisme et sur le judaïsme. Mais, en ce qui concerne l'Afghanistan, avant d'être un pays musulman, c'était un pays zoroastrien et bouddhiste. Donc, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire cette ces deux religions qui m'importent plus. C'est ça qui forge un peu l'identité de qui faisait, ma foi, plus maintenant, malheureusement, qui faisait partie de l'identité afghane. Et cette destruction du Bouddha, c'est la fin de cette identité pour moi. Et aujourd'hui, on voit, même quand je retourne en Afghanistan, quand je vois les Afghans, ils ne pensent plus à leur passé, à leur identité. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Et si je m'attache...
C'est volontaire de la part des talibans, selon vous, l'évacuation de tout, de toute culture, de toute trace de civilisation antérieure à leur propre existence.
Bien sûr, bien sûr. De la même manière que d'un seul coup, quand en islam est venu, il a pas renié les deux autres religions, mais quand même, il a dit, voilà, c'est une nouvelle religion, les autres, on les laisse de côté. Alors, de la même manière, quand ils sont arrivés en Afghanistan, ils ont changé notre alphabet, tout. Mais par contre, nous, les Afghans, longtemps, avaient gardé germe de leur identité bouddhiste et zoroastrienne. Et même dans mon pays, il y a des rituels, quelque chose qui ne correspond pas du tout aux rituels du monde musulman. Et quand j'ai voyagé en Inde, et là j'étais aperçu que non, ça venait de l'Inde. Notre identité était plutôt indienne, zoroastrienne que islamique. Mais on nous a imposé ça. Et aujourd'hui, on voit, c'est devenu vraiment quelque chose pour les Afghans qui personne ne sait comment s'en débarrasser.
Vous êtes d'où, vous, aujourd'hui? Vous êtes de France, vous êtes d'Afghanistan, vous êtes d'Inde?
Oh, bah écoutez, moi je dis toujours que j'ai l'impression que je suis né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné ici en France.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Atik Raimi, Mulatu Astatke. Thank you. Pourquoi ce choix? Merci pour ce jazz éthiopique, Atik Raimi.
Bah écoute, là, je l'ai découvert d'abord dans le film de Jim Jarmusch, Broken Flower, et j'étais emporté par cette musique. Et là, toute l'année, presque à partir du mois de juillet 2018 jusqu'à décembre, j'étais au Rwanda pour tourner un film.
Car vous êtes cinéaste et auteur déjà de plusieurs films.
Voilà. Et là, évidemment, l'Afrique, je cherchais la musique africaine, mais des bonnes musiques, et je suis tombé sur, évidemment, c'était évidemment la première chose qui était venue à l'esprit, c'était le jazz éthiopique. Donc, j'écoutais, et puis dans les bars en Éthiopie, alors là, vous entendez de temps en temps des musiciens extraordinaires, comme ça, qui sont là, et pas pour donner un concert et tout ça, mais avec leur instrument, ils chantent, ils jouent. Et c'est majestueux, c'est majestueux.
On entendait la voix de Claude Lévi-Strauss tout à l'heure qui parlait des sociétés à écriture et qui nous disait à quel point l'écriture pouvait être un ordonnancement de notre symbolique et de notre appartenance au monde. Or, vous, Atik Raimi, depuis que vous avez commencé à publier, tous vos livres sont publiés chez POL, eh bien, on a l'impression que vous nous communiquez, grâce à votre instinct poétique et aussi grâce à cet entre-deux langues que vous avez su créer, que vous nous transmettez que vous n'êtes jamais ni dans une langue, ni dans une autre. Et que cette espèce d'entre-deux est constitutive d'une liberté et d'une interrogation absolument permanente sur le statut de la langue.
Puisque comme j'ai dédié aussi le livre à Paul, Paul Tchaïkovski-Laurens, mon éditeur, je pourrais, quand je lui avais donné la première fois mon manuscrit Terre et Cendres et qu'il voulait publier, je voulais absolument savoir pourquoi il avait accepté de publier mon livre.
Alors, Terre et Cendres, c'était votre premier livre publié en français, un livre bouleversant.
En 2000.
Sur la mort de votre frère.
Oui, absolument.
Et pourquoi vous avez été voir POL?
Bah écoutez, c'est ma traductrice. À l'époque, j'écrivais pas en français, j'écrivais en persan. Et ma traductrice, Sabrina Nouri, qui avait envoyé le manuscrit à Paul Tchaïkovski-Laurens, parce qu'il m'a, quand elle m'avait demandé, donc, quelques éditeurs à cette époque, pour moi, évidemment, alors que je venais juste de terminer mes études, etc. C'était POL, cette couverture, et puis les œuvres de Georges Perec, Duras, et tout, c'était quelque chose, pour moi c'était mythique, presque, même si c'était très jeune comme maison d'édition. Et j'ai dit ça comme ça, vraiment. Et quand, le jour où elle m'a appelé pour me dire que Paul avait accepté de publier ça, j'en revenais pas. Et c'est pourquoi je voulais absolument le voir, lui qui n'avait jamais publié des œuvres traduites. Alors, comment ça faisait pour qu'elle publie ce livre-là? Donc, je suis allé le voir et je lui ai demandé, mais pourquoi? Il m'a donné une réponse extraordinaire. Et il dit, parce que derrière ce texte, j'ai vu quelqu'un qui croyait aux mots. Et là, se croire aux mots, c'était quelque chose pour moi. En effet, oui, je viens d'une culture où la poésie, la lecture était très très importante, aussi dans une famille. Donc, je crois aux mots. Donc, en effet, et c'est pourquoi si je fais des calligraphies, c'est pour vénérer les mots, les embellir, les comme on fait un statut de, je sais pas, sacré. Voilà. Mais je cherche pas le Dieu à travers les mots.
Cela fait un an que Paul Tchaïkovski-Laurens a disparu, tragiquement dans un accident de voiture. Je vous propose de l'écouter. Il va s'exprimer sur la vérité formelle d'un texte. C'est une archive INA de 2014.
Alors, je viens de lire et j'ai, au point d'avoir fait, en effet, mon métier de ce plaisir. Voilà, j'ai cette chance que n'a pas tout le monde de faire ce qui me plaît. Il y a un texte d'Antoine Vitesse qui dit, je cite de mémoire, donc c'est pas littéral, c'est pourquoi nous aimons la poésie, parce que la poésie dit la vérité. Je suis très sensible à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité dans les textes, non pas parce que ce qui est dit a existé ou est vrai au sens alors le plus immédiat du terme, mais parce que la manière dont c'est dit est vrai et juste. Et c'est cette justesse que j'essaie de trouver dans les textes, et c'est ce qui m'agite quand je lis un texte. Ça, c'est juste ou c'est pas juste, ça dit la vérité ou ça ne la dit pas. Je veux dire par là, c'est une vérité formelle, mais qui renvoie évidemment une autre forme de vérité plus profonde, la vérité de la personne qui, écrivant un texte, ne sort pas de ce sillon qui est celui qui va le plus profondément dans son histoire, dans sa sensibilité, dans sa... Voilà. Et ça, j'ai l'impression de le sentir quand je lis un texte qui me plaît. Autre chose, c'est... je suis comme vous, comme tout le monde, fait d'une histoire très... très complexe, qui a à voir avec l'enfance, avec les rencontres, avec certaines formes d'hérédité intellectuelle, etc. Et quand un texte fait bouger tout ça, a des répercussions sur cette espèce d'ensemble, sur ce magma que j'ai du mal à analyser ou à décrire, mais qu'on a tous en nous, plus ou moins, quand quelque chose se passe à cause du texte, et ben là, je commence à m'y intéresser beaucoup, voilà.
Alors ce rapport à la vérité, c'était une des lignes de conduite que Paulo Tchaïkovski-Laurence a tenue tout au long de sa trop courte existence. Je pense que Paul aurait aimé lire votre livre « Atikraimi » parce que vous y déployez une des problématiques qu'il vient d'exprimer lui-même, c'est-à-dire le rapport à la vérité. Vous mettez dans ce nouveau texte intitulé « Les porteurs d'eau » deux personnes différentes dont les existences vont être chronologiquement, successivement racontées à l'intérieur de votre récit. C'est l'un est porteur d'eau, il n'a pas eu droit à une éducation, il n'a pas eu droit à l'amour, il n'a pas eu droit à l'ouverture de l'être, il n'a pas eu droit au bonheur de l'existence, et cependant, il croit qu'un jour, peut-être, cela va lui arriver. On va pas tout raconter, mais il a la chance de pouvoir vivre dans une maison où se trouve quelqu'un qu'il aime éperdument et à qui il ne peut pas déclarer son amour. L'autre, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui vous ressemble d'ailleurs beaucoup, à la fois par cette hypermnésie qu'il habite depuis des décennies et aussi par cette croyance en l'écriture, mais c'est aussi cette espèce de sensation que dans sa vie, il a déjà tout dit, il a déjà tout entendu et il ne pourra plus rien faire. Bref, son problème, c'est de savoir dire la vérité. Or, il ne sait pas la dire.
Oui. Alors là, il y a plusieurs choses qui se mêlent. En effet, le premier personnage, Youssef, analphabète, illettré, qui vit en Afghanistan et qui... n'a pas eu justement cette chance d'apprendre et de connaître la littérature, l'amour. Et l'autre, il ne vit qu'avec les mots. Tout simplement parce qu'il est en exil, il est déchiré entre la nostalgie de son pays qu'il rejette, et puis toute sa volonté de s'intégrer dans la société française. Donc tout ça, c'est... ces deux versions, en effet, deux dimensions différentes de moi-même, bien sûr. Si j'étais pas ici en France, si j'étais pas à l'école, je serais comme Youssef, illettré, quelqu'un qui ne sait pas comment poser des mots sur ses sentiments. Et la question aussi, est-ce que l'amour sans mots peut exister ou non? De la même manière, je me pose la question si Dieu peut exister sans mots. Je crois pas. Donc, c'est pourquoi dans les religions, c'est les religions de livres, ce qu'on appelle. Donc Dieu est le Verbe. Donc d'une certaine manière, vous voyez. Donc en effet, pour moi, tout est le mot, tout est le langage, tout est la langue. Donc et même Dieu, donc s'il existe ou existe pas, je m'en fous. Mais il existe dans l'imaginaire, d'une certaine manière. Donc, et grâce aux mots, je crois que toute réalité, pour pouvoir exister, a besoin d'être racontée. Et on ne raconte qu'avec des mots.
Mais le porteur d'eau, Youssef, il n'a pas les mots à sa disposition. Il a les mots de la religion qu'il peut répéter, les mots auxquels il le croit. Mais oui. En même temps, il se dit que peut-être, en dehors de cette adhésion à ce qu'on lui a appris par le Coran, il peut peut-être imaginer un autre monde que celui des mots du Coran.
Absolument. On ne sait pas s'il vraiment il croit ou non de tout au long. Il se pose des questions. Il est déchiré. Il est dans une sorte de dilemme. L'autre, Tom, il est dans un dilemme entre sa femme et sa jeune maîtresse à Amsterdam. Youssef, il est dans le dilemme de croire ou ne pas croire. Lui, il n'est pas dans le dire ou ne pas dire, comme Tom. Lui, c'est au contraire. Donc, lui, il cherche, et c'est grâce, justement, à un marchand indien, un philosophe, qui arrive à trouver des mots pour les poser sur ses sentiments. Et c'est vers la fin qu'il apprend, justement, il est amoureux. Par contre, Tom, enfin, je jouais aussi avec le mot, avec son prénom, Tom. À vrai dire, il s'appelle Tamim. C'est un prénom très courant en Afghanistan. Mais comme la plupart des Afghans, ou même des étrangers, quand ils viennent ici en Europe ou aux États-Unis, ils changent de prénom, donc d'identité, d'une certaine manière. Il a choisi Tom. Quand on inverse, ça vient Mo, bien sûr. Et c'est un personnage complètement textuel. Pour moi, oui. En effet.
Alors vous savez, Atik, dans cette émission, on demande à des personnes de s'exprimer sur le travail de l'invité. Nous avons demandé à votre scénariste, Jean-Claude Carrière, votre scénariste dans votre vie de cinéaste, car vous êtes poète, écrivain, cinéaste, calligraphe. Eh bien, regardez, il pourrait faire des dessins, comme vous, des belles calligraphies et des calligraphies, mais écoutez ce que dit Jean-Claude Carrière de vous.
Atik Raïmi, d'abord, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Nous avons travaillé ensemble sur Singh et Sabour. J'ai écrit avec lui le scénario. Il pensait qu'il ne pouvait pas en faire un film, et moi je le pensais. Pour le prouver, je lui ai écrit une première version de son scénario. C'est un excellent cinéaste, c'est un visuel. C'est un visuel qui essaie d'être un écrivain. C'est-à-dire qu'il voit les choses avant de les écrire. Et quelquefois, ça lui joue des tours parce que, du point de vue narratif, il peut lui manquer des éléments. Vous voyez, il les voit, mais il oublie de nous les dire. Alors c'est un merveilleux personnage afghan qui a choisi la culture française et de vivre en France et d'être, avec sa femme Raïma, d'être français, ses enfants. C'est toujours très difficile de parler de l'ami parce qu'on a envie de n'en dire que du bien. Il a un grand talent à la fois d'auteur, il vient de publier donc Les Porteurs d'eau, et de cinéaste, et même de librettiste d'opéra, ce que l'on sait moins. C'est-à-dire qu'il est très attiré par la musique et par l'écriture de l'opéra. C'est un auteur complet comme il en faut aujourd'hui. À cheval sur deux ou trois cultures, puisque vous savez, la langue afghane, le Dari, c'est une variation du persan. Ils se comprennent très bien avec ma femme qui est iranienne, par exemple, mais avec un accent particulier. Autrefois, l'Afghanistan était un des joyaux de l'Empire perse. Il ne l'est plus maintenant. Et il y a en Atik, dans sa joie de vivre, dans son regard, dans son... toujours quelque chose qui me frappe. C'est la douleur que subit son pays. Depuis l'invasion du communisme, les talibans, les re-talibans, les corruptions, les interventions de tel et tel, du Pakistan, des États-Unis, les nôtres. Bon, je suis allé plusieurs fois en Afghanistan et je sens en lui une douleur secrète, une douleur cachée, qui n'est pas sa douleur à lui, mais qui est la douleur de son peuple. Et c'est ce que j'aime beaucoup en lui, c'est que sous son grand rire, sa grande sympathie, ses yeux merveilleux, il est très beau physiquement en plus, se cache très soigneusement cette détresse profonde.
Voilà le point de vue de Jean-Claude Carrière. Alors, je peux dire aux auditrices, mais aussi aux auditeurs, qu'effectivement, Jean-Claude Carrière a au moins raison sur un point, c'est que vous êtes très beau.
Oh bah, écoute,
et d'ailleurs, vous cultivez votre beauté, parce que même dans ce studio, sans les caméras, vous gardez votre beau chapeau pour mieux mettre en valeur vos très beaux yeux. Mais Jean-Claude Carrière vient de dire quelque chose, je crois, très important, et qu'on perçoit effectivement derrière votre faconde, votre lyrisme, on sent qu'il y a une sorte de mélancolie à l'intérieur de vous, et ce depuis longtemps, on le sent d'ailleurs dans votre grâce d'écriture, y compris dans ce dernier livre, Atik Raimi. Et pour parler de votre pays, l'Afghanistan, eh bien, l'année 2018 a été une année terrible, en violence, en mort, l'année qui commence... commence sous les pires auspices après la déclaration de Trump d'un net désengagement des militaires américains dans votre propre pays. Que pensez-vous de l'étreinte de ce pays vis-à-vis des talibans et que pensez-vous de l'intégrisme qui sévit? C'est aussi un des sujets principaux de ce dernier livre qui sort, Les porteurs d'eau, l'intégrisme.
Oui, malheureusement, c'est vrai que l'Afghanistan, géopolitiquement parlant, est dans une situation où cet État-là, malheureusement, arrange beaucoup de pays. Où c'est bien les Pakistanais, que les Russes, que les Iraniens, que les Américains, les Européens, etc. Donc, tout le monde trouve son compte. Et même les Afghans, les corrompus, et surtout les talibans, les intégristes. Donc, c'est ça. Donc, malheureusement, je vois pas comment peut-on sortir immédiatement d'une telle situation. Et n'oublions pas une chose non plus, que l'Afghanistan fait partie de ce monde. Et quand on voit l'état du monde, il faut pas s'étonner ce qui se passe là-bas non plus. On a vu tout au long de l'histoire, à chaque fois quand il y a une crise mondiale, une crise géopolitique, à la fin se résume et se cristallise dans ce petit pays pauvre qu'est l'Afghanistan, depuis Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui. En effet, je ne crois pas du tout au destin, bien sûr, mais concernant mon pays, j'ai l'impression que peut-être c'est le seul peuple qui a un destin tragique.
Vous revenez du Rwanda où vous avez passé de nombreux mois. Pourquoi ?
Pour faire un film qui est une adaptation d'un livre d'une grande écrivaine rwandaise, Scholastique Mugasunga. Notre-Dame du Nil, celle qui a écrit en 2012 son livre Notre-Dame du Nil, qui est d'une certaine manière sa propre vie dans les années 70 au Rwanda, dans laquelle elle expose les prémices du génocide 94. À cette époque, ce qui était très important, c'est que comment ce génocide se préparait. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a essayé de chasser tous les intellectuels et tous les cerveaux tutsis, mais aussi Hutu. La conscience rwandaise a été, justement, à ce moment-là, affaiblie et chassée. Donc, d'où le génocide 94, un génocide populaire, parce qu'il n'y avait aucun intellectuel, aucun artiste n'était présent pour l'empêcher, malheureusement. Et s'il n'y avait pas ces prémices 73 au Rwanda, il n'y aurait pas le génocide 94.
Ben bravo de monter cette œuvre maîtresse de Scholastic Mukasonga. On attend avec impatience votre nouveau film, Atik Raimi. Dernière question concernant ce très beau livre qui vient de paraître et qui s'intitule « Les porteurs d'eau ». À un moment, vous faites dire à votre personnage... intellectuel qui vous ressemble diablement. Donc, pas de mots, pas de voix, ne rien dire, le silence. Se taire n'est pas trahir, c'est rester loyal envers l'autre, plus loyal que se cacher derrière le lyrisme criard.
Oui.
Heureusement, vous n'êtes pas resté dans le silence.
Non. Non, mais pour moi, même le silence est chargé de mots, de la même manière que les mots sont chargés de silence aussi. Mais là, oui, ce personnage qui parlait tout le temps, et à un moment donné, il décide de ne plus rien dire. Mais à la fin du compte, on voit que non, il est incapable. On veut, si, parce que ça, cette partie, ça concerne le moment où il veut quitter sa femme, justement. Et à ce moment-là, quitter demande, justement, des mots, en une rupture, en silence. Ce n'est pas, c'est très lâche.
Et c'est très masculin.
Le silence.
Non, la rupture sans mots.
Oui,
c'est ce que je vous dis. Et la dans la rupture. Mais on ne va pas justement raconter tout votre livre. En tout cas, merci infiniment.
Merci à vous.
Merci pour ce livre qui vient juste de paraître aux éditions POL en français, parce que cela fait maintenant plusieurs décennies que vous écrivez directement en français. Les porteurs d'eau.
Vous êtes sûr? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'écris toujours en persan.
Bon, ben moi je ne sais pas lire le persan, hélas, j'ai cru lire du français. En tout cas, merci infiniment à Tik Raimi, les porteurs d'eau. Et on va se quitter en écoutant Canine Jardin, vous connaissez ? Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Antoine Joubert, à Jean-Baptiste Audibert, à Grégory Vallon qui était à la technique et à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, réalise cette émission. Après le prochain journal d'info, vous avez rendez-vous évidemment avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip. Et puis j'entends les bips, il est 21h, vous écoutez France Inter.